Deux orphelines, cinquième partie, chapitre 9. À l'hôtel de Lignières, le départ du chevalier de Vaudrey avait amené une grande tristesse succédant aux douces joies et aux tendres effusions des jours précédents. Diane en avait éprouvé une vive émotion à la pensée des dangers qu'allait affronter le fils que sa sœur mourante lui avait recommandé d'aimer et de considérer comme son propre enfant. Elle se consolait autant que possible en prodiguant son affection et sa tendresse à la chère créature que la Providence lui avait enfin rendue. Mais quoi qu'elle fît pour éloigner les appréhensions qui l'assiégeaient, sa convalescence n'en éprouvait pas moins un certain ralentissement que remarqua bientôt le docteur Hébert. « Je ne suis pas content de vous, madame la comtesse. Vous n'observez pas mes prescriptions. Vous me désobéissez. Ce n'est pas le moyen de rétablir entièrement votre santé. » Diane baissait la tête sous la paternelle semonce, puis son regard empreint de mélancolie se levait sur le visage que le médecin avait voulu rendre sévère. Elle suppliait des yeux qu'on ne la sermonnât pas trop. « c'est bien, reprenait Monsieur Hébert. Je sais ce que vous voulez dire. Je comprends parfaitement sans que vous me parliez. Et c'est précisément parce que je sais à quelles idées douloureuses vous vous laissez aller que je veux vous arrêter sur la pente qui vous conduirait fatalement à une rechute. Et c'est surtout dans votre cas, madame la comtesse, concluait le docteur, que la rechute est dangereuse. » Et Monsieur Hébert ajoutait en regardant la tête blonde de l'aveugle. « Vous savez bien cependant, madame la comtesse, que vous avez maintenant charge d'âme. Vous savez qu'une chère créature a besoin que vous la protégiez, que vous l'aimiez, que vous soyez pour elle une mère tendre et vigilante. » Diane, alors, tendait la main au docteur comme pour le remercier des bonnes paroles qu'il prononçait et de la sympathie qu'il témoignait à Louise. « Bon, bon, reprenait Monsieur Hébert, sans se lasser de revenir sur le même sujet. Vos intentions sont excellentes, c'est incontestable. Mais les intentions ne suffisent pas. » Puis, faisant dévier subitement la conversation. « Après tout, finissait-il par dire, ceux qui vont en guerre ne sont pas toujours tués. Et puis, Roger a un motif impérieux pour défendre sa vie avec acharnement. Je suis intimement convaincu que le chevalier va faire là-bas des prodiges de valeur, et qu'il nous reviendra sain et sauf, pour notre bonheur à tous. Je dis notre bonheur, ajoutait-il, parce que je ne serai moi-même complètement satisfait, heureux, que le jour où ma protégée, mademoiselle Henriette, fera trêve ainsi que vous, madame la comtesse, aux mélancoliques regards et aux douloureuses rêveries. » La pauvre petite aveugle avait écouté sans prononcer une parole tout ce qu'avait dit le médecin. Mais lorsque Monsieur Hébert se retira, après avoir renouvelé ses recommandations. Ah, quel malheur, dit-elle, que je sois privée de la vue. J'aimerais tant à vous donner des soins, et comme je vous obligerais, à force de prières, à suivre les prescriptions de ce bon docteur. Pauvre cher enfant, répondit Diane en attirant Louise sur son cœur. Quel trésor de bonté il y a en toi. Mais tu l'as entendu, Monsieur Hébert est persuadé qu'il te rendra la vue. « Hélas, répliqua Louise avec tristesse, il sera bien tard. Ce sera beaucoup de temps de moins que j'aurai à vous consacrer, car jusque-là, je suis une pauvre créature inutile auprès de vous. » Diane l'interrompait aussitôt. « Est-ce qu'un enfant est jamais inutile pour sa mère? Ne nous suffit-il donc pas d'être aimés, à nous autres, sans demander autre chose à nos enfants ?» Et profitant de ce que la jeune fille ne pouvait la voir, elle la contemplait avec bonheur, lui envoyant à pleine main des baisers. Elle ressentait pour son enfant retrouvé une adoration sans bornes. Elle eut avec bonheur veillé jour et nuit sur elle. Comme elle eut prié auprès d'elle, alors que tout dort dans le monde, et où il semble que Dieu, moins sollicité par les humains, prête mieux l'oreille aux prières qui s'élèvent vers lui. Mais il lui fallut trop tôt s'arracher à cette douce joie de mère. Celui qui s'était montré généreux au point d'adopter l'enfant, que dans sa colère, dans sa juste jalousie, il eût pu chasser de sa présence, celui qui avait voulu tout pardonner et tout oublier, ainsi qu'il l'avait dit dans un noble élan de générosité, celui-là ne pouvait lui accorder le droit de présenter cet enfant comme sienne, de proclamer sa maternité, de crier à tous « C'est ma fille, l'enfant que j'ai porté dans mon sein !» la fille adorée que l'on avait arrachée à ma tendresse. La Providence me l'a fait retrouver, et il m'est permis aujourd'hui de l'aimer, de la couver de mes regards, privée pendant si longtemps de la vue de cet ange. C'est dans ces conditions que s'étaient écoulés les premiers jours après la scène qui avait décidé de la santé, de l'existence peut-être de la comtesse de Lignières. Le comte n'avait pas voulu, on le comprend, gêner les premières effusions. Il ne se présentait plus, maintenant, dans l'appartement particulier de Diane, de peur d'effaroucher les baisers échangés entre la fille et la mère, sans avoir fait demander à celle-ci si elle pouvait le recevoir. Il y avait dans les relations affectueuses de M. de Lignières avec elle une telle recherche des prévenances, une telle délicatesse de procédé, que Diane en fut profondément touchée. Mais bientôt l'excès même de ses précautions et de ses prévenances finit par l'affliger. Un jour, elle prit la résolution de faire cesser un état de choses qui, à la longue, ne pouvait que devenir embarrassant pour elle. « Monsieur le comte, » dit-elle à son mari, au moment où celui-ci se présentait, après s'être fait annoncer comme d'habitude. « N'avez-vous pas toujours le droit de venir ici à toute heure ? N'êtes-vous pas pour moi l'époux respecté, affectionné, auquel appartiennent et mes actions et mes pensées les plus intimes ? N'avez-vous pas enfin tous les droits à ma reconnaissance, à ma tendresse ?» Et Diane attendait une réponse qui vint la rassurer. Alors, silencieusement, M. de Lignières se dirigea vers la porte qui faisait communiquer la chambre de la comtesse avec celle où couchait Louise. Et poussant cette porte. « Mon enfant, » dit-il, s'adressant à l'aveugle, « venez donc nous rendre une petite visite à Madame la comtesse et à moi. » Puis, prenant affectueusement la main de Louise, il l'avait aidée à passer dans la chambre de sa mère. « Asseyez-vous sur cette causeuse, et dites-nous si vous vous trouvez heureuse ici. »« Oh, bien heureuse, monseigneur !»« Dites-nous si votre cœur forme quelque désir que nous puissions satisfaire. » »« Oui, mais je n'ose pas. »« Eh bien, moi je devine que Mademoiselle Louise désire se trouver un peu plus souvent avec son amie, sa sœur d'adoption. »« Henriette, c'est vrai, je n'osais vous prier, monsieur le comte, de me permettre d'aller chez monsieur le docteur. Dès demain, mademoiselle Henriette Gérard viendra ici. » « Ici ? » s'écria Louise avec vivacité. « Oui, mon enfant, ici même, car madame la comtesse aime beaucoup la lecture, et j'espère qu'elle voudra bien agréer le choix que j'ai fait pour elle d'une lectrice. » La joie de l'aveugle, en entendant ces mots, se communiquant à la comtesse, toutes deux remercièrent monsieur de Lignières d'avoir eu cette pensée et de l'annoncer d'une façon aussi délicate. « Dès demain, reprit le comte, mademoiselle Henriette Gérard, chaque jour viendra passer plusieurs heures auprès de vous. » Louise attendit avec impatience ce lendemain qui devait la rapprocher de la compagne de son enfance. Et dès que le jour parut, elle se leva, s'habillant à la hâte, pour être prête à recevoir son amie. À partir de ce moment, il sembla que le comte rechercha toutes les occasions de se retrouver avec Diane et Louise. L'aveugle avait retrouvé, en compagnie de son ami d'enfance, toute la santé que le séjour chez la Frochard avait gravement compromise. Elle se sentait heureuse autant que pouvait l'être une pauvre jeune fille aveugle. Et cependant, elle se laissait aller à une mélancolie qui chaque jour s'accusait davantage. Souvent, lorsqu'elle était seule, elle se prenait à rêver, reportant sa pensée vers ce temps qui s'était écoulé, si pénible, si douloureux pour elle. Et lorsque la comtesse la surprenait dans cet état de rêverie, Louise essuyait furtivement une larme glissant le long de ses joues. La feinte gaieté qu'elle affectait alors ne pouvait tromper l'œil attentif d'une mère. Après avoir observé la jeune fille pendant quelques jours, la comtesse acquit la conviction qu'il se passait en elle une chose étrange. Elle se décida, après bien des hésitations, à l'interroger. « Tu n'es donc pas heureuse ici, Louise ? » demanda-t-elle. « Comment ne serais-je pas heureuse auprès de vous, si bonne, si charitable, si aimante ? Alors, mon enfant, pourquoi te vois-je quelquefois si triste ?
Moi ?
Oh, n'essaie pas de dissimuler, je t'ai surprise essuyant des larmes. » L'aveugle garda le silence. Diane n'insista pas. Attirant sa fille dans ses bras, elle se contenta de lui murmurer à l'oreille. « Je ne veux pas que tu pleures, ma Louise bien-aimée. Tes larmes, chère enfant, retombent brûlantes sur mon cœur. Ne pleure plus, plus jamais. La jeune fille prit soin, à partir de cette conversation, de cacher le trouble de son âme. Ce trouble, un souvenir le faisait naître. Le souvenir de l'être infortuné qui avait compati à ses souffrances et risqué sa vie pour la défendre. Rien ne parvenait à l'en distraire. Monsieur Hébert avait demandé qu'on lui amenât l'aveugle, et c'est à Henriette qu'il eut le soin d'accompagner sa sœur à l'hôtel du docteur. Picard était chargé de suivre les deux jeunes filles et de les attendre pour le retour. Pendant le trajet, Louise interrogeait continuellement sa compagne sur les rues qu'elle parcourait. « Dis-moi bien le nom de chacune de celles où nous passerons, chère Henriette, » ne cessait-elle de répéter. « Pourquoi me demandes-tu cela ?» disait Henriette. Et Louise répondait un peu troublée. « Je voudrais savoir si j'ai déjà parcouru ces quartiers. » « Comme tu es devenue curieuse, ma chérie. Bientôt, heureusement, grâce aux bons soins du docteur Hébert, tu pourras voir par toi-même par quelle rue nous passerons. Et quelles personnes nous rencontrerons sur notre route. » Ainsi qu'on l'a bien compris, c'est au rémouleur, c'est à Pierre Frochard que Louise songeait. Depuis le jour où elle avait été emmenée du taudis de la Frochard, elle n'avait plus rien appris qui eût rapport à son humble protecteur. Elle s'était bien gardée d'en parler à la comtesse. Il semblait d'ailleurs que l'on évitât de lui rappeler les scènes douloureuses qui avaient précédé son installation à l'hôtel de Lignières, et bien que la comtesse eût pu trouver maintes fois l'occasion de lui parler de la façon miraculeuse dont elle l'avait rencontrée à la sortie de l'église, par cette matinée de neige, elle gardait le silence à ce sujet. Louise avait espéré qu'en parcourant les quartiers avoisinants de l'hôtel du docteur Hébert, elle rencontrerait, un jour ou l'autre, le rémouleur, puis que celui-ci n'ignorait pas que le médecin s'était chargé de lui offrir l'hospitalité le jour où il les avait emmenés, elle et Henriette, après le drame sanglant de la rue de l'Oursine. Elle se disait que Pierre ne manquerait pas de venir rôder dans les environs de l'hôtel et qu'elle l'entendrait pousser son cri de rémouleur. « À repasser les couteaux, ciseaux !» Jusque-là, elle avait été trompée dans son espoir. Et cependant, Pierre s'était un jour trouvé sur son chemin. Le brave garçon avait eu le désir d'accoster respectueusement les deux jeunes filles. Mais au moment de le faire, il était resté comme rivé sur place et dans l'impossibilité de faire un mouvement. Son cœur avait battu bien fort à la vue de l'aveugle revenu à la santé, elle, autrefois si pâle, si souffrante, si accablée, lorsque l'impitoyable mégère la traînait à sa suite et la forçait de tendre la main aux passants. Il s'était alors dissimulé à l'angle d'une rue pour ne pas être aperçu par Henriette. Et lorsque les deux jeunes filles eurent disparu, il attendit encore longtemps avant de se remettre en marche. Ce jour-là, il n'eut guère le cœur à travailler, et jusqu'au soir, il rôda dans le quartier sans s'apercevoir qu'il n'avait pas mangé et qu'il allait rentrer dans le taudis de la rue de l'Oursine sans rapporter d'argent à la misérable créature qui attendait son retour pour lui prendre, comme toujours, le gain de la journée. C'est que depuis la mort du chérubin, la Frochard ne se montrait plus dans les rues. Tant que son fils préféré avait vécu, elle n'avait reculé devant aucune fatigue, devant aucune bassesse pour se procurer l'argent nécessaire aux ignobles fantaisies de l'ivrogne et du paresseux. Mais depuis que Jacques n'était plus, la mendiante se faisait nourrir par le rémouleur. La misérable n'absorbait plus d'ailleurs que de l'alcool jusqu'à ce qu'elle tombât ivre-morte sur son grabat. Et quand il arrivait que Pierre ne rapportait pas assez d'argent pour acheter sa ration quotidienne, la mégère ne contenait plus sa fureur et l'accablait de mauvais traitements. Elle pouvait se livrer sans crainte à toute sa colère furieuse, car depuis longtemps déjà, les voisins fuyaient la masure de la mendiante et l'on aurait pu s'y égorger sans que personne songeât à se déranger pour se porter au secours de la victime. On ne plaignait même plus le pauvre rémouleur. On blâmait Pierre de n'avoir pas déserté le taudis et de continuer à vivre auprès de cette mère infâme. D'aucuns allaient même jusqu'à prédire au rémouleur que la Frochard finirait sur l'échafaud comme avait fini son mari, et que ce ne serait que justice. Aussi, pour échapper à ces terribles prédictions, le pauvre garçon s'en allait-il le matin au petit jour pour ne rentrer qu'à l'heure où toutes les portes de la rue de l'Oursine étaient déjà closes. Or, le jour où il avait rencontré Louise, Pierre ne songeait plus à rentrer du tout. Il se mit à errer dans les rues, gesticulant comme un fou, se parlant à lui-même, se reprochant de n'avoir pas suivi les deux jeunes filles, de loin, pour savoir où elles allaient, et dans quelle maison elles habitaient. La nuit était venue depuis longtemps déjà, et le malheureux continuait à marcher, revenant toujours sur ses pas, et toujours ruminant les mêmes pensées. Il était arrivé, sans s'en douter, sur le pont Neuf, à l'endroit même où, pour la première fois, il avait vu la Frochard parlant à l'aveugle abandonné. Il s'assit sur le même banc où la jeune fille s'était assise, le soir, quand seule, perdue dans Paris, elle avait accepté l'hospitalité de la mendiante. Et il se mit à pleurer à chaudes larmes en évoquant ses tristes souvenirs. Que de choses s'étaient passées depuis. Comme il avait aimé la pauvre créature. Et maintenant qu'il l'avait perdue à jamais, il sentait qu'il ne pourrait survivre au désespoir qui envahissait son âme, chaque jour plus amer et plus profond. Il aimait, lui, le déshérité, lui le fils du supplicié roué en place de grève. Il aimait un ange. Il osait espérer la revoir, lui parler. Ne devait-il pas être pour Louise un sujet d'horreur, après la scène sanglante à laquelle elle avait assisté, et qu'Henriette lui avait raconté bien certainement, dans tous ses horribles détails? Désormais, pensait-il, jamais la main de la douce et pure jeune fille ne pouvait effleurer sa main souillée de sang. Et cependant, il ressentait pour elle une profonde adoration. À la pensée de Louise, son cœur bondissait dans sa poitrine. Tout son sang lui affluait au cerveau. Ses idées s'égaraient, et il lui prenait comme une frénésie de suicide. Il se disait qu'il n'avait que quelques pas à faire pour se précipiter dans le fleuve et en finir avec la douleur qui le poignait, avec les horribles souffrances qu'il subissait. Que lui importait de vivre, maintenant qu'il ne pouvait plus consacrer son existence à celle qui occupait une si large place dans son cœur? Pendant plus d'une heure, le pauvre garçon laissa ainsi errer son esprit, se maudissant d'avoir une âme accessible aux plus douces affections, alors qu'il n'était qu'un misérable disgracié de la nature, un objet d'horreur pour tous ceux qui connaissaient la terrible histoire de la famille Frochard. Il s'interrompait dans ses douloureuses réflexions pour écouter couler l'eau du fleuve sous les arches du pont. Et comme si ce bruit monotone l'eût irrésistiblement attiré, le malheureux se levait, se dirigeant vers le parapet. Mais alors aussi, une pensée subite l'arrêtait. La pensée de Louise qui lui revenait plus vivace que jamais pour lui rappeler combien, autrefois, il exhortait la pauvre désespérée à la patience. Combien il s'efforçait de lui donner l'espoir que des jours meilleurs viendraient pour elle après les torturantes épreuves qu'elle subissait. Et il retombait sur le banc et pleurait à chaudes larmes. Non, il ne pouvait se décider à en finir. Il voulait, ne fût-ce qu'une fois encore, revoir sa chère aveugle, lui dire un dernier adieu. Et peut-être alors s'en irait-il dans la mort, l'âme moins troublée. Pierre se leva brusquement et se mit à marcher avec précipitation, comme pour fuir ce fleuve dont les murmures l'attiraient. Il courut sans direction arrêtée, s'élançant dans la première rue venue. Et quand il eut ainsi parcouru tous les quartiers avoisinant le pont Neuf, il retourna machinalement vers la Bièvre, fatigué, traînant lamentablement la jambe. Lorsqu'il se retrouva sans savoir comment devant la masure, il eut la velléité de fuir, de n'y jamais reparaître. Mais il se dit que la malheureuse qui l'attendait était sa mère, qu'elle avait faim peut-être. Son cœur s'emplit de pitié. Non, se dit-il, je ne dois pas l'abandonner. Et Pierre prit dans sa poche la lourde clé qui ouvrait la porte de la masure. Il procéda lentement, avec précaution, pour ne pas réveiller la Frochard au cas où elle dormirait. Précaution superflue, l'ignoble créature gisait sur le sol, n'ayant pas eu la force de regagner son grabat. Une bouteille qui avait contenu de l'alcool était à côté d'elle, tandis qu'un bout de chandelle de résine, fiché dans le goulot d'une bouteille, éclairait cette scène. La Frochard était ivre-morte, comme d'habitude. Si elle eût fait un mouvement un peu trop brusque, ses hardes eussent infailliblement pris feu. Aussi le rémouleur saisit-il la chandelle qu'il alla porter sur la table. Et il passa le reste de la nuit assis sur un escabeau. Nuit d'insomnie, car le pauvre diable était hanté sans relâche par le souvenir de l'aveugle. Il se la représentait gravissant cet escalier qui conduisait au renier. Il la revoyait, cherchant à tâtons la corde qui servait de rampe. Et comme pour compléter l'illusion, il entendit la voix de la Frochard, vociférant dans son sommeil agité par l'ivresse, de terribles menaces contre la pauvre victime qui se refusait à aller dans les rues pour chanter et mendier.
Thank you.